Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour, chères auditrices, auditeurs, et bonjour à vous tous.
Salut.
Bonjour.
Voilà, alors, pas de doute, donc, on est bien sûr Oblique, et aujourd'hui, nous accueillons donc un nouveau collaborateur qui va nous faire part, qui s'appelle Ashraf, et qui va nous faire part de sa passion pour Alfred Hitchcock et Brian De Palma, avec une comparaison entre Obsession et Vertigo. Et toi, Victor, je suppose que tu reviens avec une interview.
Oui, tout à fait. Ce sera donc Nora Martirosyan qui nous amène avec le film Si le vent tombe dans le pays assez méconnu qu'est le Haut-Karabakh.
Et toi, Yann ?
Ce sera Arthur Honegger pour les musiques de films de Abel Gance.
Alors, quant à moi, je vais vous dire un petit mot d'un film qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière, Sentinelle Sud, thriller social sur fond de guerre en Afghanistan, en arrière-plan. Voilà, et tout de suite, on retrouve Justine pour l'agenda ciné de la semaine.
C'est ça. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price. Bonjour tout le monde, alors au programme cette semaine, jeudi 5 mai à 19h45, le cinéma Diagonale nous invite à une séance exceptionnelle du film L'hypothèse démocratique, une histoire basque de Thomas Lacoste. Ce film documentaire propose pour la première fois le récit sensible de la sortie politique du plus vieux conflit armé d'Europe occidentale. La projection sera suivie d'un échange exceptionnel avec Pierre Carle, documentariste, et le réalisateur du film Thomas Lacoste. Le vendredi 6 mai à 20h30, le cinéma Le Sémaphore de Nîmes organise une séance unique du film Avant minuit de Jean Achache, qui sera présent durant la séance. Alors Avant minuit, c'est un making-of du film Round Midnight de Bertrand Tavernier, mais également un hommage à ce réalisateur dont il fut l'assistant pendant près de 5 ans. Dimanche 8 mai, à partir de 11h, rendez-vous au cinéma Diagonale pour une projection débat en présence du réalisateur autour du documentaire clandestin « Vietnam, un cri qui vient de l'intérieur ». Un film dans lequel le réalisateur, André Manras, recueille la parole d'une génération de dissidents, de pêcheurs et de paysans vietnamiens en lutte contre les injustices sociales et l'expansionnisme chinois. Jeudi 12 mai à 19h15, le cinéma Utopia nous donne rendez-vous autour d'un apéro à l'occasion des 10 ans d'existence de l'association Souffrance au Travail 34. À 20h, le film Un autre monde de Stéphane Brisé sera projeté et à l'issue de la séance, vous pourrez débattre avec les membres de l'association mais également avec Céline Sauvezon, maître de conférence à l'université Paul Valéry. Et puis si vous avez déjà vu Un autre monde ou que parler de souffrance au travail après votre boulot ne vous tente pas trop, je vous propose en alternative une soirée Ghibli organisée par l'université Paul Valéry en salle Jean Moulin. Au programme, à 18h30, le voyage de Chihiro, suivi par le château ambulant. Et enfin, samedi 14 mai, rendez-vous au théâtre Jacques Coeur à Latte à partir de 22h pour une projection en plein air de deux courts-métrages inédits organisés dans le cadre du festival Jeune Public, Maxi et les Mômes, qui aura lieu du 13 au 15 mai. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt.
Merci Justine. Et tout de suite, Sentinelle Sud, premier long-métrage de Mathieu Gerot. De retour du front afghan après une opération clandestine qui a éradiqué son unité, Christian essaie de reprendre une vie normale. Mais le passé récent le rattrape et il se retrouve mêlé à un trafic d'opium pour sauver deux de ses frères d'armes ayant survécu à la mission. Alors Sentinelle Sud, premier long métrage de Mathieu Gerot, peine à démarrer, un peu engourdi dans un récit filandreux, qui a du mal à marquer son territoire, à choisir une voie claire entre la chronique sociale et le film noir à l'ancienne, sur fond de braquage, trahison, meurtre et fatalisme. Alors paradoxalement, c'est dans cette indécision qui le rend intéressant, un interstice où le film se révèle touchant, inefficace sur le plan dramaturgique, mais souvent très incarné. Alors, le réalisateur dessine des personnages consistants, à commencer par Neil Schneider, alors parfait militaire un peu perdu, hein, il est revenu intact physiquement, mais il est assez traumatisé. Hein. L'acteur prodigieux, curieusement rajeuni, vampirise l'écran par sa seule présence, hein, à la fois massive et enfantine, puissante et fragile. Autour de ce personnage central, gravitent des figures très fortes, de son compagnon de route Mounir, au gangster local imposant, sympathique et effrayant, en passant par le commandant, qui est interprété par un Denis Lavant assez impressionnant, mais ça c'est encore plus surprenant, très sobre, ce qui est quand même assez rare. Hein. Donc cette attention méticuleuse accordée au personnage évoque le cinéma de Sidney Lumet, hein, référence explicite. Hein. En revanche, il se montre moins à l'aise avec la seule présence féminine endossée par c'est India Air, hein, qui joue Lucie, une ergothérapeute qui peine à exister à l'écran. Alors sinon, comme contrepoint un peu humaniste par rapport à un milieu d'hommes violent et immature.
Monsieur Lafayette, vous êtes militaire ?
Je rentre là.
Vous rentrez ?
Afghanistan.
Christian, je sais que le retour est difficile.
Regarde-moi ce quartier de merde, là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça.
Mounir, on est rentré vivant de là-bas.
C'est où que t'as vu qu'on était vivant ?
Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics ?
T'étais au courant ?
Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté.
C'est quoi, Mounir ? Moi, je discute pas avec ces mecs. Il est où, l'argent ?
Tu veux nous abouler ?
Oh, il est malade.
Si, il sait ! Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout.
Va falloir que tu le surveilles, ton frère.
Henri, c'est mon pote. Tu comprends ? Ils y touchent pas. Il peut pas rester chez vous, Henri. Il peut pas se défendre.
Arrête de vouloir essayer de le sauver. S'il a des choses à dire, tu laisses l'armée faire son travail.
C'est avec des gars comme nous que la France a fait la guerre.
Vous devez protéger la famille.
C'est un mensonge. Tout le truc.
Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout. C'est le devoir de notre famille qu'il y ait un survivant. Christian. Vous portez le secret.
Le parcours de Christian, hein, somme toute classique, hein, alors, se réfère au film noir des années 40, mais prend un tournant atypique dans sa résolution singulière. Alors, pour l'épilogue, hein, aussi optimiste que surprenant, et la direction d'acteur très maîtrisée, Sentinelle Sud mérite le déplacement. Hein, ce curieux scénario aurait sans doute mérité une mise en scène moins fonctionnelle. Alors, très soignée, hein, y a une belle lumière, un découpage filmique qui est très cohérent, toujours au service du récit, très attentive aux acteurs, mais elle ne propose cependant rien de très novateur, hein, cherchant avant tout à retrouver, je dirais, une forme de classicisme proche du cinéma américain des années 70. Malgré cette limite, ce thriller rural, qui a la bonne idée de ne montrer aucune image de la guerre, se révèle une bonne surprise, portrait lucide de combattants tentant de retrouver une part de leur innocence perdue à la guerre. Donc le film est diffusé donc au Diagonale à Montpellier.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same.
Et je laisse la parole à Victor pour un entretien avec Nora Marty-Rosian, réalisatrice de « Si le vent tombe ».
Oui, donc du coup, Marty-Rosian.
Marty-Rosian, désolé.
Elle ne se vexera pas. Elle est d'ailleurs montpelliéraine. Donc c'est son premier film. Elle venait le présenter dans le cadre des séances Acid Pop, qui donc sont des séances où il y a généralement un deuxième réalisateur qui vient accompagner pour présenter. Un réalisateur, donc membre de la CID. Cette fois-ci, c'était Philippe Fernandez, dont on parlera dans une prochaine émission, puisque lui également, on a eu un petit entretien avec lui. Donc, Si le vent tombe, ça a pris 10 ans pour Nora Marty-Rosian de le terminer. C'est un film qu'elle est allée tourner au Haut-Karabakh. C'est un pays plus ou moins invisible, puisque autoproclamé et non reconnu par l'ONU. Vous pouvez même pas le trouver en cherchant sur Google Maps. Dans le film, on suit donc le personnage de Alain Delage, un auditeur français qui vient expertiser la possibilité d'une ouverture de l'aéroport du pays. Les habitants de la région l'appelant, donc, puisqu'il est français, Alain Delon. Tout au long du film, le personnage très mélancolique de Alain va évoluer dans ce pays et essayer de l'appréhender, sans qu'on sache vraiment, enfin au moins au début, si son implication est due en fait tout simplement à son travail ou si c'est une démarche plus personnelle. Le film est en apparence assez opaque et il offre en fait à ses spectateurs la possibilité d'observer le thème de la frontière, mais enfin la frontière, qu'elle soit légale, réelle ou culturelle dans le pays, nous laissant libre en fait de décrypter à notre manière le fonctionnement de ce territoire un peu mystérieux. Cette liberté justement du spectateur, Nora Martirossian l'a évoqué au cours de la rencontre, et c'est cet extrait que j'ai choisi de vous faire écouter parce qu'il est, je pense, très représentatif de sa démarche et de la beauté du film.
J'ai une question piège, tout à l'heure, Nora a fini sur une phrase que j'ai toujours pas comprise, donc je vais lui redemander.
Ah, t'as toujours pas compris,
mais c'est très bien, tu vas nous la expliquer. Quand elle disait, quand elle citait le poète Sela en disant « qui témoigne pour le témoin ?», il semblerait que cette phrase soit une porte d'entrée pour le film.
Alors, en fait, ça c'est un drôle de truc, parce que j'ai une copine en France, c'est une vieille histoire, elle a 15 ans, elle m'a dit « non mais le Tchekhov, c'est extraordinaire, parce que je peux m'identifier avec ces gens qui n'ont pas vraiment de grandes aspirations, les trois sœurs. C'est grâce à l'identification que j'arrive de rentrer dans le récit de Tchekhov. Tandis que moi, dans ma culture, je n'ai pas besoin d'identification pour rentrer dans la littérature. Et je me souviens, c'était là, je ne sais pas, 15 ans, cette histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec ça? Moi, je pense que la littérature, elle fonctionne sur les ressorts de littérature. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, peut-être demain ça va être autre chose. Je me dis, de prendre la parole de quelqu'un et de dire, lui, Philippe Fernandez, pense, lui, Philippe Fernandez, marche, lui, il s'assoit, ça me permet une distance que je trouve dans la pudeur et dans le rapport, elle est beaucoup plus intéressante que quand moi je dis « je suis Philippe Fernandez » et regardez comment je marche, comment je pense, comment je m'assois. Donc ce rapport à lui, donc je témoigne pour toi, mais d'ici, je pense que c'est aussi quelque chose de culturel. Je pense, tu vois, si tu regardes Kiarostami, si tu regardes le cinéma qui vient un peu de ces endroits-là, je pense qu'on est beaucoup moins sur cette histoire d'identification que la littérature et le cinéma occidental ont su imposer comme une règle de jeu contre laquelle aujourd'hui, je pense, je me dresse contre cette règle. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair cette histoire de... Je pense que c'est important de dire, je prends ton témoignage et je témoigne parce que j'ai les moyens de raconter ton histoire, mais je ne dis pas que moi, je suis toi. Je pense que pour le spectateur ou le lecteur, ça laisse plus de latitude de ne pas être piégé par les émotions, mais de réfléchir aux autres ressorts. Voilà. Après, c'est très personnel, et peut-être ça ne vaut rien, mais voilà, c'est une de mes convictions. Mais même le concept d'identification, c'est quelque chose que j'ai découvert. Hein. Moi, je ne savais pas qu'on est censé s'identifier. C'est pas comme ça que je fais ma culture littéraire ou cinématographique.
Ouais, en plus, c'est typiquement lié à notre culture artistique. Et au fait qu'on vienne du champ artistique, d'abord, on fait tout nous-mêmes, de la conception jusqu'au montage, à l'étalonnage, etc. On ne supporte pas que d'autres personnes se mêlent de ce qu'on va faire. Et surtout, on n'a pas appris à écrire des scénarios, donc on ne sait pas ça. On ne connaît pas les règles de la dramaturgie qui fait beaucoup d'entrées dans les salles. On s'en fiche. Nous, on a envie juste de produire un objet qui nous contente sous toutes ses facettes. Et donc, y compris sous des angles de caméra, au type de plan, à comment vont être les acteurs. Et jamais on ne pense en ces termes de dramaturgie, identification, qui sont un petit peu les règles de base du cinéma narratif, mais qui ne sont pas les nôtres à la base en tant que plasticien. Et c'est pour ça qu'on délivre des objets qui ont plus de poésie, plus de poétique, et justement plus de neutralité identificatoire, qui laisse le spectateur plus libre de choper dans le film les signes qui l'intéressent.
Je pense plus d'invention. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'en fait, moi, toutes ces choses-là, par exemple, les questions de point de vue, ils m'ont dit, mais on est dans le point de vue, là, pareil sur le scénario, on est dans le point de vue de qui? De l'homme ou de l'enfant? Je dis, mais on est obligé d'être dans le point de vue de quelqu'un.
Pas posé la question.
Je ne me suis même pas posé la question, mais attends, tu regardes Oliveira, par exemple, il ne s'est jamais posé ces questions, et c'est un grand cinéaste. Donc, au fait, de réduire tout le cinéma à question d'identification, de point de vue, de narration. Et pareil sur mon film, moi, en lisant voilà, certains articles, moi, j'ai découvert des choses que, voilà, c'est une grande beauté, ce film qui est tout le monde dans la déception, parce qu'on pense que quand il y a le début, l'homme et la femme se rencontrent, il y aura une histoire d'amour, et ben non. Que l'homme et l'enfant vont se rencontrer, ben non. Que là, ils sont dans la voiture et il va avoir un accident, ben non, il n'y a pas d'accident. Donc en fait, ça rejoue tous ces trucs-là qu'on a l'habitude de voir, mais je n'ai pas fait exprès. C'est juste, moi, je ne crois pas nécessairement qu'on a besoin des histoires d'amour dans tous les films, ni des accidents, ni de adoptions, ni voilà. Je pense qu'on peut faire aussi autrement, librement, qu'on fait la poésie. La poésie, elle te raconte la couleur, l'odeur, le machin, et voilà, et on est comblé.
Je pense que c'est un objet que tu portes, plastique, poétique, et mais tu fais confiance à ton public.
Ah, complètement.
Alors que le cinéma d'ingrédients, il fait moins confiance à son public.
Ouais. Mais tu sais, là où j'étais vraiment, moi, quand donc, le film il était prêt, donc les distributeurs, il y a les gens de l'acide, on me dit, oui, les exploitants, j'ai appris le mot, hein, les exploitants, c'est les gens qui exploitent le film dans le cinéma, c'est les exploitants, donc ils décident un peu de destin du film. Les exploitants sont feignants, voilà, un film comme ça, de niche, ça ne va pas intéresser le public, ça ne va pas les intéresser. Mais merde, franchement, les salles que j'ai eues, les retour que j'ai eu de mon public qui ne connaissait rien de cette histoire de Karabakh, qui voilà, qui a 10 000 lieux, qui a vu des trucs, j'ai eu des discussions mais formidables, et je me dis mais à quel point on est bête de pas faire confiance au public. J'ai vu les jeunes, les collégiens qui m'ont posé des questions mais d'une pertinence incroyable. Donc en fait, si on arrête de avec la petite cuillère donner la chose déjà pré-mâchée et pré-digérée déjà, je pense que peut-être le monde va pouvoir changer.
Alain, il faut que vous compreniez ce que représente cet aéroport pour notre pays. Dès que cet aéroport fonctionnera, la communauté internationale sera obligée de nous reconnaître.
Can you take me to the border?
Donc sorti en salle le 26 mai 2021 hein, déjà, donc il est assez facile à trouver sur internet, il est disponible sur de nombreuses plateformes, notamment sur la boutique d'Arte, et je vous recommande d'y jeter un œil.
Merci Victor, et maintenant j'invite Ashraf pour nous parler donc de Vertigo et Obsession.
Après un visionnage d'une copie de Vertigo en VistaVision, De Palma a un déclic soudain et propose lors d'un dîner avec Paul Schrader, alors scénariste sur Yakuza et en plein chantier de Taxi Driver avec Scorsese, de revisiter un monument de l'histoire du cinéma, à savoir le Vertigo d'Alfred Hitchcock sorti en 1958. L'écriture est engagée, Schrader est une vraie tête de mule, mais le film se met en place, trouve ses investisseurs ainsi que ses acteurs, à savoir Geneviève Bujold, John Lithgow qu'on retrouvera 5 ans plus tard dans le Blowout de De Palma, et Cliff Robertson, qu'on retrouvera dans le Spider-Man de Sam Raimi. C'est l'oncle Ben, et c'est aussi la meilleure anecdote de ce diptyque. L'idée d'une relecture légitime qui se définirait à la fois en tant qu'œuvre individuelle et preuve absolue d'un savant mélange de fascination et d'affranchissement, enthousiasme De Palma. Et le thriller romantique, censé s'appeler Déjà vu, est né. Obsession est née. L'épopée de De Palma est évidemment fortement marquée par la volonté de s'affranchir du père, en expérimentant, puis s'appropriant une nouvelle grammaire filmique tout au long de sa filmographie. Il travaille sur des mécanismes essentiels au rythme et à la narration, tels que le ralenti ou l'écran partagé, des formes qui connotent un cinéma hitchcockien, mais qui ancreront sa personnalité dans le nouveau cinéma hollywoodien, post-Codex des années 70 et 80. Afin de s'affranchir des cauchemars qui le hantent depuis Vertigo, et pour Obsession, De Palma emprunte Bernard Herrmann, non sans raison, pour ce film où la musique occupe une place immense, matrice d'une tension palpable. Herrmann n'a d'ailleurs pas eu l'occasion de voir le film terminé, puisqu'il est décédé en 75, après l'enregistrement de la musique de Taxi Driver, paix à son âme. Pour ce qui est du pitch, ayant vu sa femme mourir, faute d'avoir payé la rançon exigée par leur kidnappeur, Michael Courtland, homme d'affaires américain, rencontre un jour en Italie une femme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau. Malgré les avertissements de son entourage, il y voit une seconde chance qu'il ne veut pas laisser passer, au risque de réveiller un passé douloureux. Le film est un dialogue direct avec Vertigo, et fut mésestimé à sa sortie en 76, très critiqué comme étant une sorte de pastiche ridicule ou encore un vol bien ficelé. Mais De Palma prouve qu'il transcende certaines formes hitchcockiennes, qu'elles soient visuelles ou narratives, en transposant ce qui était par exemple une culpabilisation catholique chez Hitchcock, en une thématique autour de l'enfant vengeur et une atmosphère relevant d'un onirisme et d'une réalité impactante, et brillamment utile notamment lors d'une séquence dans laquelle De Palma met en œuvre une relation incestueuse entre le père et la fille, déroulée lors d'un rêve afin d'éviter la censure. L'idée de passion et de vertige est amplement développée à l'écran, au travers de filtres diffus et autres travelling circulaires vertigineux, et la particule ajoutée de l'inceste est aussi d'une finesse folle, puisqu'elle représente une bombe à retardement aux retombées dramatiques impactantes et puissantes, donnant évidemment plus d'effet à l'écran. Obsession est un chef-d'œuvre fantasmatique, une relecture légitime et tout à fait personnelle à découvrir ou redécouvrir en Blu-ray ou partout sur vos sites de torrent favoris.
Merci Ashraf, et pour finir en beauté, nous retrouvons Yann pour l'audioblick autour de Honegger, compositeur pour les films de Abel Gance.
Le week-end dernier, à l'Opéra Comédie de Montpellier, a été présentée une opérette de Arthur Honegger, Les Aventures du Roi Pozzol, une opérette truculente hein, sur une adaptation du roman de Pierre Louys. Et cette occasion m'a fait rappeler que Arthur Honegger, qui est un compositeur dit sérieux, était très sensible aux formes populaires et tout naturellement, au début du XXe siècle, il a trouvé une attirance toute logique vers le nouvel art du cinéma. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est Le Capitaine Fracasse de Abel Gance, film de 1943. Alors, cinéaste qui lui aussi était attiré vers les formes populaires tout en restant un novateur. Cette partition, on entendait un extrait, est très conventionnelle, hein, elle est un peu appuyée, voire un brin pompier, et on est très très loin du caractère beaucoup plus moderne de la musique, souvent d'Honegger, mais notamment la musique a été écrite pour un film capital de Abel Gance, lui aussi plus moderne que Le Capitaine Fracasse. On était en 43, on va revenir 20 ans en arrière, en 1923, en pleine période du muet. Et ce film vraiment important, c'est La Roue. Hein. La Roue, c'est un film fleuve qui dure entre 5 et 8 heures selon les montages, autour de l'univers de la machine, de la locomotive. Et la composition de Honegger qui a été écrite pour ce film s'appelle Pacific 231. Pacific 231, hein, composition d'Arthur Honegger pour le film La Roue de Abel Gance. Pacific 231, c'est le nom d'une locomotive, en fait, le nom d'une machine, et on entend dans cette musique hein, qui mêle le bruit à des préoccupations de type polytonal, polyrythmique, témoin finalement d'une fascination pour le modernisme, pour la machine, pour les bruits. On ne peut pas ne pas penser à Luigi Russolo à la même époque, hein, qui, voilà, avec son art des bruits, qui est un peu l'inventeur de la noise music, et au mouvement du futurisme italien également, tout ça c'est un peu la même époque. La musique de Honegger est en prise, est en connexion avec son actualité, caractéristique aussi d'autres compositeurs en France qui se sont regroupés en une sorte de collectif sous la bannière du groupe des six. Alors le groupe des six, c'est pas du tout le chaînon manquant entre le club des cinq et le clan des sept. Le groupe des six, c'est six compositeurs. Il y a Germaine Taillefer, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Auric qui lui a beaucoup composé pour le cinéma aussi, Darius Milhaud et Louis Duret. Et ces six personnalités avec ont aussi deux figures tutélaires qui sont Jean Cocteau et Eric Satie. Une autre collaboration avec Abel Gance pour un film également fleuve, un film mythique, c'est Napoléon, une super production de 1927. La musique, elle adopte un tour plus classique. On en écoute un extrait, c'est la scène d'enfance de Napoléon. Voilà pour terminer cet audioblic, hein, c'était un extrait avec un caractère très printanier, c'est l'époque, c'est le moment. Donc une musique d'Arthur Honegger pour un film de Abel Gance, c'était Napoléon. Il y a aussi un film important, c'est la fin du monde hein, de 1931, où il y a une partie de la musique est signée Honegger. Et puis il y aura d'autres films, mais autres que ceux d'Abel Gance, et ce sera l'occasion d'un prochain audioblic.
Alors ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est la fin de l'émission, ce qui est triste aussi. Donc je vous dis à tous au revoir, à la semaine prochaine.
Et salut, bonne semaine.
Et puis certainement que la semaine prochaine, je reviendrai avec des films d'Artus notamment. Voilà, Victor, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, moi je débarquerai sans doute avec un réalisateur et ses extraterrestres, mais avant ça, je voulais encore et encore rappeler que Oblique, on organise des événements ciné, et que pour ça, on est toujours à la recherche de choses à intégrer à notre programmation. Donc si vous avez des clips, des courts-métrages ou même des longs-métrages, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on y jette un œil et pourquoi pas leur trouver une place quelque part dans notre prog. Donc obliqueciné@gmail.com, obliqueciné@gmail.com. Voilà.
Merci, voilà, toute l'équipe se joint à moi pour remercier donc Anna à la technique, Utopia, Le Diagonal, Divergence, Artus Film, et puis vous quatre, Justine, Ashraf, Yann et Victor.
Merci, merci. Au revoir.
Merci.
Bisous.
Au revoir, bisous.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.